RFI, 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Sébastien Duhamel.
Et à la une, ce matin, cet accord signé dans l'est de la RDC, censé permettre l'évacuation de la SAMI DRC à Goma, la force de la communauté d'Afrique australe. Accord signé par l'AFCM23 et des représentants de la SADC. La première tentative de médiation au Soudan du Sud, après que les tensions ont éclaté à nouveau et après surtout le placement en résidence surveillée du vice-président Riek Machar cette semaine. La tentative de médiation venue du Kenya, le président Ruto a dépêché un émissaire à Djouba. Il s'agit de Raila Odinga. 8 candidats sur la ligne de départ au Gabon. La campagne pour la présidentielle du 12 avril débute officiellement aujourd'hui. Scrutin important censé refermer la transition débutée après le coup d'État contre Ali Bongo. Un appel des religieux catholiques au Cameroun en cette année électorale. Ils réclament quant à eux un processus transparent, juste et apaisé. Et puis un projet qui progresse malgré les alertes. Le projet d'oléoduc porté par ICOP entre l'Ouganda et la Tanzanie. Une première tranche de financement vient d'être bouclé. Un accord a donc été trouvé dans l'est de la RDC, un cessez-le-feu signé hier à Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, signé donc par l'AFC M23 qui a pris le contrôle de la ville en janvier et par des représentants de la SADC. Ce texte prévoit l'évacuation de la force de la communauté de développement d'Afrique australe qui était déployée sur place depuis décembre 2023, car les chefs d'État de la SADC ont acté la fin de son mandat il y a 2 semaines maintenant lors du sommet d'Harare. Concrètement, Lisa Fabien, ce cessez-le-feu devrait ainsi permettre un retrait dans de bonnes conditions.
La signature de l'accord a eu lieu à l'hôtel Serena en présence de hauts gradés du Malawi, de Zambie, de Tanzanie et d'Afrique du Sud. Face à eux, le général-major Makenga Sultani menait la délégation de l'AFC M23. Parmi les résolutions, un cessez-le-feu et le retrait immédiat et sans condition des forces de la SADC présentes à Goma ont été décidés. Le communiqué final indique que ces militaires rentreront dans leur pays via l'aéroport international avec leurs armes et leurs équipements. Un comité conjoint chargé d'évaluer l'état de l'aéroport a été mis sur pied alors que la SADC s'est engagée à participer à la réparation des infrastructures. Ces travaux pourraient débuter d'ici une semaine pour accélérer les choses, selon l'AFC M23. Le chef d'état-major de l'armée sud-africaine a profité de ce déplacement pour visiter les troupes de la SAMI RDC dans leur base autour de Goma. Fin février, le M23 avait déjà permis l'évacuation de soldats de la SADC grièvement blessés lors de l'offensive sur Goma, dans laquelle 14 soldats sud-africains ont perdu la vie.
Lisa Fabian, une rencontre hier dans l'est de la RDC également. À Bunia, le chef-lieu de la province de l'Ituri, les états-majors de la RDC et de l'Ouganda se sont retrouvés. Les deux pays, je vous le rappelle, sont engagés conjointement dans l'opération Shuja, mise en place initialement pour lutter contre le groupe ADF. Mais il est question désormais d'étendre son mandat également à la milice Codeco, active justement dans cette province de l'Ituri. Si le vice-président Riek Machar a été placé en résidence surveillée mercredi au Soudan du Sud, c'est parce qu'il préparait une nouvelle rébellion, selon le porte-parole du gouvernement et ministre de l'information sud-soudanais. Michael Makwe s'exprimait hier à Djouba pour la première fois sur cette situation. Issu du camp du président Salva Kiir, il affirme que Riek Machar fera l'objet d'une enquête et sera traduit en justice. C'est donc dans ce contexte de tension résurgente que le Kenya tente une médiation pour essayer de sauver l'accord de paix de 2018 qui avait été conclu entre les deux hommes forts du Soudan du Sud. Le chef de l'État kényan a ainsi dépêché Raila Odinga hier à Djouba. Celui-ci n'a pas pu voir Riek Machar, mais il s'est entretenu avec son rival, le président Salva Kiir. Une discussion détaillée et constructive selon les mots de Raila Odinga à la sortie. Je vous propose de l'écouter.
Nous avons eu une discussion très approfondie avec le président Salva Kiir sur la situation sécuritaire et sur les raisons du problème. Il y a une inquiétude dans la région à propos de la situation sécuritaire dans ce pays. Le président Salva Kiir m'a fourni des explications et je vais aller faire un rapport aux autres chefs d'État de la région. La région est très inquiète de l'évolution de la situation au Soudan du Sud. Elle veut voir un retour à la normale et souhaite que ce pays joue un rôle actif dans la communauté d'Afrique de l'Est et dans le bloc régional IGAD. Nous avons donc espoir que cette question soit résolue dans le plus grand intérêt du peuple du Soudan du Sud et celui de la région.
Les mots de Raila Odinga hier à Djouba, l'émissaire kényan qui a ensuite rejoint l'Ouganda où il a rencontré le président Yoweri Museveni. Il lui a présenté son rapport justement après cette rencontre avec Salva Kiir. Raila Odinga qui s'est dit après cette rencontre avec Yoweri Museveni confiant que la paix peut être préservée au Soudan du Sud. Une visite de 2 jours en Turquie refermée hier par le président somalien à Ankara. Hassan Sher Mohamoud a échangé avec son homologue Recep Tayyip Erdogan qui fait face à une large contestation en ce moment dans son pays. Mais cette rencontre était plutôt axée sur la situation somalienne à l'heure où les troupes fédérales ont accusé quelques revers sur le terrain face aux islamistes Chebab. Une rencontre hier pour apaiser la situation entre la Mauritanie et le Mali. Une délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères de transition Abdoulaye Diop a été reçue à Nouakchott, reçue par le président Mohamed Ould El Razouani. Depuis plusieurs semaines, la Mauritanie mène une campagne d'expulsion de migrants en situation irrégulière venus notamment d'Afrique de l'Ouest. Le sommet Nutrition for Growth achevé à Paris. Il a réuni pendant 2 jours décideurs, secteurs privés et associatifs. Des promesses de dons records ont été enregistrées. 27 milliards de dollars pour lutter contre la malnutrition. Promesse saluée par la société civile, mais elle espère qu'il ne s'agira pas d'un simple effet d'annonce. Et pour s'en assurer, une plateforme de suivi a été mise en place. Le Global Nutrition Report.
RFI à Libreville. 104 FM.
Ils sont 8 pour briguer la présidence du Gabon et la course va officiellement démarrer aujourd'hui avec le début de la campagne électorale. Dans les starting blocks, 6 candidats qui tentent de se faire une place face aux 2 poids lourds annoncés, à savoir Alain-Claude Bilibinzé qui était le dernier premier ministre d'Ali Bongo et surtout celui qui a chassé Ali Bongo du pouvoir en août 2023 et qui a laissé derrière lui sa casquette de général pour se présenter, Brice Clotaire Oligui Nguema. On fait un tour d'horizon ce matin avec François Mazet.
La campagne Oligui Nguema promet plusieurs dizaines de milliers de personnes, gradins et pelouses remplies. Une démonstration de force autour d'un candidat qui a obtenu le ralliement de la quasi-totalité des forces politiques. Caciques du pouvoir déchu, anciens opposants et grandes voix de la société civile ont rejoint les plateformes et associations de soutien qui ont fleuri dans le pays. Pour toutes les chapeautées, le rassemblement des bâtisseurs a été créé, sa direction confiée à Ange-Kevin Zigou. Mais derrière la figure du renouvellement qu'est cet avocat connu pour son engagement contre l'ancien régime, les coordinations régionales ont un air de déjà-vu, intégrant de nombreux cadres de l'ex-parti au pouvoir. Une sorte d'état PDG sans le PDG, commente un des derniers convertis. Face au rouleau compresseur, Alain-Claude Bilibinzé ne retient pas ses coups contre la transition qu'il accuse de tromperie et de gaspillage des ressources. Il espère capitaliser sur les frustrations du quotidien comme les délestages ou les mouvements sociaux pour faire oublier son image de pilier de l'époque Ali Bongo. Jusque-là, les 6 autres candidats doivent se contenter des miettes en termes de visibilité. Ils ont 2 semaines pour tenter de se faire connaître et entendre de leurs compatriotes.
François Mazet, la campagne qui débute donc aujourd'hui au Gabon et pour parler plus en longueur de cette présidentielle, on recevait justement ce matin la professeure d'histoire d'Afrique subsaharienne à Sciences Po Paris, Florence Bernot. Elle était donc avec nous tout à l'heure. Entretien à retrouver bien sûr sur internet RFI.fr et sur nos applications. Des élections également en vue cette année au Cameroun, présidentielle et régionale. Et dans cette optique, les évêques catholiques se sont adressés hier aux citoyens et aux autorités. Dans une lettre ouverte, la conférence épiscopale du Cameroun appelle à un processus transparent, juste et apaisé. Et cela malgré un contexte pour le moins sensible. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Monseigneur Andrew Nkea, l'archevêque de Bamenda.
Notre appel, c'est pour assurer la transparence pendant cette élection. Pas d'intimidation. On parle souvent dans notre pays que les gens volent les votes. On ne fait pas toutes les choses-là qui vont diviser notre pays, qui vont amener les violences. Mais il y a beaucoup de souffrances. Pas de l'eau potable, pas d'électricité partout. Et il y a un peu de malaise. Il y a beaucoup de discours de haine. Et nous ne voulons pas qu'on base les élections sur les tribus, qu'on ne donne pas les positions au gouvernement basées sur les tribus des personnes. Que cette discours de haine qui détruit notre pays s'arrête.
Les mots de Monseigneur Andrew Nkea, l'archevêque de Bamenda au Cameroun, propos recueillis par Amélie Tullet. Moussa Dadis Camara, officiellement gracié en Guinée, lui qui fut à la tête de la junte ayant dirigé le pays entre 2008 et 2009, lui qui fut condamné l'an passé pour crime contre l'humanité pour avoir commandité le massacre d'opposants à l'époque dans le stade de Conakry. Il bénéficie aujourd'hui, Moussa Dadis Camara, d'une grâce présidentielle décidée par le chef de la junte actuelle, le général Mamadi Doumbouya. Le décret a été lu hier soir à la télévision nationale. Il évoque des raisons de santé. Le travail de mémoire à Madagascar, la grande île qui commémore aujourd'hui l'anniversaire de l'insurrection du 29 mars 1947. Ce jour-là, des insurgés malgaches se soulevaient contre les troupes coloniales françaises à Mouramang, à une centaine de kilomètres de la capitale, Antananarivo. D'autres foyers de révolte suivront le long de la côte est de la grande île. Et puis le déploiement ensuite de 18 000 soldats français, 21 mois de répression marqués par des exécutions sommaires, des civils torturés, des villages incendiés. L'épisode représente l'une des premières révoltes contre l'administration coloniale française en Afrique subsaharienne. Un projet pétrolier qui a provoqué des levées de boucliers, mais qui suit tout de même son cours. Le projet ECOP en Ouganda, facture lourde, mais de l'argent réuni, Charlotte Cossé.
C'est une étape importante pour ICOP, se réjouit la société. Cela démontre le soutien des institutions financières dans cette infrastructure régionale transformatrice, ajoute-t-elle. Cette première tranche de financement externe est réunie grâce à des institutions financières régionales, Afreximbank, la Standard Bank ou encore la Stanbic. S'y ajoutent les financements d'une branche de la Banque islamique de développement. Olivier Appert, conseiller au Centre Énergie et Climat de l'IFRI, y voit la volonté de consolider le projet par l'implication d'investisseurs locaux. C'est un premier pas qui devrait inciter les autres plus facilement maintenant, espère une source proche du dossier. Mais plusieurs questions restent en suspens, comme la liste complète des financeurs. Pour elle, c'est un manque de transparence qui semble confirmer les difficultés que Total Energy rencontre depuis des années pour financer ce projet. Une grande campagne Stop ICOP tente d'empêcher sa réalisation en visant notamment le secteur financier et les assurances. La société ICOP déclare que fin 2024, plus de 50% du projet a été exécuté et 500 millions de dollars dépensés.
Charlotte Cossé, le projet ICOP qui boucle donc une tranche de financement. Notre matinale continue sur RFI avec Julien Coquel-Rohem.